Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi. La boule va et vient. Les grandes gueules du sport. La balle se promène. Elle va s'arrêter.
Aïe aïe aïe, le million.
Georges Quirino.
Et oui, parce que vous êtes un million à nous écouter chaque samedi et on vous remercie évidemment. Bonjour à tous, bienvenue dans les grandes gueules du sport sur RMC. On est ravis de vous accompagner tous les week-ends de 9h à midi pour lancer la grande fête du sport chaque samedi, chaque dimanche, pour tout vous raconter. Il y a du foot, il y a du rugby, il y a du tennis au programme et aussi des grandes légendes qui vont nous rejoindre dans quelques instants. Des grandes légendes, il y en a autour de la table évidemment, à commencer par Julien Benneteau, qui est, bah oui, tu n'attendais pas à être la première légende annoncée.
Comme ça, bah non, je ne pensais pas être une légende.
Je voulais te saisir comme ça, tu vois.
Parfait,
ça
va marcher.
Ça va, Bennett?
Bon, bah, très bien, ouais. Toi, bravo.
Pareil que tu allais voir Lady Gaga.
Je suis allé voir Lady Gaga, mais ouais. Je pensais que c'était à l'Accor Arena, alors que la semaine prochaine, c'est ma femme qui avait pris les places. Et heureusement qu'on s'en est aperçu il y a une dizaine de jours, parce que c'était à Lyon. Donc on a fait un aller-retour à Express, parti jeudi soir, rentré hier matin tôt, mais c'était exceptionnel.
Une artiste de ouf.
Ouais, c'était génial.
Ça va faire la une, je pense, des journaux de musique, ça. Une artiste de ouf, Julien Benneteau, une légende. Pascal Duprat est là, vous l'entendez. Salut Pascal.
Bonjour Georges, salut les amis.
Comment ça va?
Comment allez-vous?
Bonne semaine, moi, Pascal.
Je suis en grande forme, ouais. Comme d'habitude. Et surtout quand je suis avec vous, c'est magique.
Ah ben,
voilà, Lady Gaga, donc c'était ouf, mais j'y étais pas.
C'est quoi le dernier concert que tu es allé voir, Pascal?
Oh mon Dieu. Attends, tu me laisses là. Quoi? Pantois.
Je crois que t'étais Aznavour à ses débuts.
Je l'ai vu, mais pas à ses débuts. Bande d'enfoirés. Non, mais ça me reviendra, mais ouais. Là, je dois reconnaître que j'ai un trou, donc ça fait quelques temps.
Tu nous diras. Et là, t'imagines, à 10h, il nous dit, je crois que c'était Michael Jackson. Incroyable.
Ils étaient partis à New York voir Edith Piaf.
Méfiez-vous, ça pourrait être un truc incroyable.
Edith Piaf, il nous avait dit.
Bipra, c'est sûr, New York pour aller voir Edith Piaf, c'était un voyage qui a marqué son temps.
Fred Veil, c'est avec nous. Salut, Fred.
Salut, salut.
Fred, d'ailleurs, nos auditeurs ne le savent pas, mais qui est un jukebox humain. Un jour, il va falloir
que je chante. Ouais, je
un sais. Jour, il va falloir chanter. Ouais.
Mais je n'ai pas la culture de Pascal Duprat. Hein. Le passé, surtout, de Pascal Duprat.
Et en plus, n'oublions pas qu'il y a Alizé Cornet, mais surnomme désormais Barry Weiss, avec sa voix.
Little Big Fred, t'ouvres la bouche, c'est moi que tu cibles.
Mais directement, tu m'as montré, parce que ça fait longtemps. Non, mais c'est vrai, ça
m'a montré. Mais mon poster, tu l'as mis à l'endroit, cette fois-ci, au-dessus de ton lit.
Non, mais j'en ai plein, des posters de toi, à l'envers, à l'endroit, sur le côté, partout.
Ça, c'est bizarre. Ça, c'est bizarre.
Le poster, c'est vous qui. Je parlais de poster dès le départ, moi.
Simon Dutin est là. Salut Simon.
Salut Georges, salut les amis.
Méloman, Simon.
Méloman, évidemment.
Ouais.
Évidemment, ancien grand espoir du piano français.
C'est vrai. Non, mais ça, en fait,
après, j'arrive pas à savoir si c'est vrai avec lui.
Simon, il y a un peu de vrai.
C'est vrai.
J'ai joué du piano et contre mon gré.
Debout.
Non, moi, j'avais pas besoin. Je pouvais rester assis. Mais tu me demandes pas de quoi je suis une légende, moi.
Ouais.
Nous non plus.
Moi, je suis une légende de la belote coinchée, pour ceux que ça.
C'est bien.
Belote,
la contrée
provençale. Le problème, c'est de trouver des partenaires à la
hauteur.
Ouais, à la hauteur.
Ouais. C'est vrai qu'on dit coinche ou contrée.
Ça dépend des régions.
Ouais. Alors moi, c'est pour être précis, je joue à la Lavardakaise. Hein. C'est vraiment une version.
C'est ce qui fait de toi une légende.
Alors là, moi, je suis là pour chanter. Je n'ai rien compris.
Les amis, oulala, il va falloir que la voix tienne un peu mieux quand même là. Jusqu'à midi au programme de vos grandes gueules du sport. À 10h, face à vous, face aux grandes gueules du sport, Tony Estanguet, l'ancien patron de Paris 2024, triple champion olympique, est notre invité à l'occasion de la sortie de son livre Par amour du sport aux éditions Calman Lévy. On a plein de questions à lui poser. Et en plus, bah, vous l'avez tous croisé de près ou de loin dans votre carrière, Tony Estanguet. La punchline est signée Novak Djokovic à propos de Yannick Sinner et de sa suspension cette année. Cette ombre va le suivre toute sa carrière, dit Djoko. Sinner est-il sali à jamais? À 10h40, j'y crois pas, je vous en donne un. La France va gagner la Coupe Davis. J'y crois pas. Tournoi final à partir de mardi. Un petit teaser. Bennett, tu dis oui ou non?
Ouais, c'est de plus en plus possible.
Oh là là, c'est bon, ça y est, préparez-vous. Préparez les Champs-Élysées. Préparez les Champs-Élysées, on va défiler.
Je garde les arguments
au spectacle à l'Olympia, One Man Show.
Je garde les arguments.
Mais c'est important.
C'est 10h45 les arguments ou c'est 9h12?
Mais c'est important de déjà le dire, comme ça peut-être Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, nous écoute. Il se dit, on va préparer les Champs-Élysées pendant une semaine. On va défiler après la victoire le saladier, quoi. Tu vois.
Il y a 25 ans, à l'époque de la Grande Coupe Davis, oui.
À 11h dans le vestiaire, est-ce que la sélection est au-dessus de tout? Vous allez nous parler de vos expériences. Et puis sur le buzzer, Mbappé forfait en Azerbaïdjan avec le soupçon d'une blessure diplomatique pour le capitaine. Est-ce que c'est gênant? En fin d'émission, participez avec vos GG au jeu du sport. Et là, vous pouvez remporter ce qui est un classique désormais chez nous, l'aspirateur Cyclomax R15 Station Ciné Easy Clean. Vous l'entendez? Son aspiration cyclonique ultra puissante capture la moindre poussière, tandis que la station pratique vide automatiquement le réservoir. Pour remporter votre aspirateur Easy Clean, appelez le 3216 touche 4 ou envoyez sport au 73216. Sport ou 73216, vous allez voir, ce matin, on a plein de choses à vous faire gagner. 3216 pour participer au débat avec vos GG. Notre WhatsApp au 06 12 424 424 et notre compte X pour participer au débat. Mais d'abord à la une, le rugby, le sélectionneur du 15 de France est attendu au tournant ce soir.
RMC, la une des grandes gueules du sport.
Vous venez d'être promu en tant que manager et vous vous demandez quelles sont les choses que vous devriez mettre en place pour bien prendre vos fonctions auprès de votre équipe.
Nous, on est tellement heureux de jouer. Il est de jouer, de vivre l'instant présent avec plaisir et de s'aimer très fort.
Il va donc être nécessaire de prendre un temps pour asseoir les fondamentaux de votre fonctionnement commun avec votre équipe et avec votre hiérarchie.
Nous sommes à tourner vers le futur. Le passé nourrit une expérience formidable sur le fond comme sur la forme à traverser, qui construit, qui fait avancer vers la suite qui est en fait le présent bien sûr et les deux années à venir.
Quelles sont les valeurs qui sont importantes pour vous et que vous souhaitez voir respectées au sein de l'équipe?
À ce niveau-là, on doit être en capacité d'accepter les rotations, l'émulation et la concurrence. Comment vivre le groupe, comment vivre l'équipe et comment se comporter sur le projet collectif plus que sur son projet individuel. L'équipe compte plus que l'individu.
Ayez conscience que votre rôle premier en tant que manager, c'est de faire grandir votre équipe.
C'est un peu la théorie de Darwin. Pour survivre, c'est pas les espèces les plus fortes ni les plus intelligentes qui survivent. C'est celles qui s'adaptent.
On allumait une cigarette et tout s'allumait. Et c'était la fête le 14 juillet.
Ah, c'est la fête.
Ben voilà, on vient de trouver le concert de Pascal en fait.
C'est bon, je crois que c'est Lenny Kravitz. C'est pas tout bon.
Mais ouais, c'est sa période française, oui. À Lenny. Fabien Galthié, vous l'avez compris, le sélectionneur du 15 de France joue avec le statut de ses joueurs. Une semaine après la défaite décourageante, comme avait dit Christophe, humiliante, frustrante, vous l'appelez comme vous voulez, face à l'Afrique du Sud, le 15 de France dispute son deuxième match de la tournée d'automne face aux Fidji à Bordeaux. C'est ce soir à 21h10 à suivre sur RMC dès 20h, hein, avec Christophe Cessieux et toute l'équipe sur place, Denis Charvet, Pierre Thévenet, Nicolas Paolo Orsi. Greg Aldritz sera de nouveau le capitaine des Bleus ce soir après avoir été mis de côté pour la rencontre face au box. Ce joueur de La Rochelle, souvenez-vous, on en avait parlé, avait laissé entendre qu'il était peut-être plus aimé, il y avait plus d'amour quand il revenait en club. Message à l'époque qu'on avait senti en pointillé pour le patron des Bleus, Fabien Galthié, qui n'hésite plus à déboulonner des joueurs au statut important depuis la dernière Coupe du Monde. Les GG, je vous pose la question ce matin. Oui ou non, Fabien Galthié joue-t-il avec le feu avec ses cadres? Pascal Duprat.
Je vais dire non, mais...
Ah, Simon Dutin.
Oui, oui, évidemment.
Julien Beneteau.
Non.
Fred Weiss.
Oui.
Oui, on vous attend au 32-16, WhatsApp 06 12 424 424. Pierre Thévenet est à Bordeaux pour RMC. Salut Pierre.
Salut Georges, salut à toutes et à tous.
Salut Pierre. Pierre, depuis la Coupe du Monde, Fabien Galthié a laissé tomber la calinothérapie. Personne n'intouchable, c'est ça maintenant?
Exactement, c'est la nouvelle tendance qui a été initiée au tournoi 2024 et qui s'accentue depuis la dernière tournée d'automne en novembre dernier, juste après la Coupe du Monde 2023. Rappelez-vous, Fabien Galthié affirmait vouloir emmener 80 à 90% de ce groupe jusqu'au Mondial 2027 en Australie. La semaine dernière, sur la pelouse du Stade de France, il n'était que 9 rescapés du quart de finale perdu face au box. Certains étaient bien sûr blessés, mais le sélectionneur a aussi changé sa méthode et fait des choix forts. L'an dernier, en novembre, pour le premier test face au Japon, Charles Olivon était écarté au profit d'Alexandre Roumat. Gaël Ficou s'assoit également sur le banc pour laisser place à Emilien Gailleton face à l'Argentine. Deux semaines plus tard, c'est déjà Grégory Aldrit qui montait en tribune. Une tendance qui s'est poursuivie au tournoi des Six Nations. Après la défaite en Angleterre, Jalibert et Penaud sont laissés hors du groupe pour le déplacement victorieux en Italie. Et donc, face au box la semaine dernière, tu l'as dit, c'est à nouveau le capitaine habituel, Greg Aldrit, qui était en costume en tribune avant de retrouver sa place en numéro 8 pour le match de ce soir. Ce management, Fabien Galthié l'assume, le justifie. Déjà, il faut récompenser ceux qui font le boulot l'été, les joueurs en développement qui ont brillé par exemple en Nouvelle-Zélande en juillet, c'était le cas de Michael Guillard, en Argentine l'année dernière comme Emilien Gailleton, et aussi privilégier le collectif, les hommes en forme, quitte à laisser des cadres en dehors. Il salue d'ailleurs très souvent l'attitude de ses leaders et les relance très rapidement. Parfois, ça coince, comme avec Mathieu Jalibert l'an dernier, qui avait préféré rentrer en club qu'être réserviste, mais pour l'instant, le sélectionneur semble bien avoir son groupe avec lui.
Tu restes avec nous, Pierre, évidemment, pour réagir au débat. Tiens, juste sur le WhatsApp 06 12 424 424, hein, envoyez vos messages pour participer. J'ai un certain A qui me dit, Galthié n'est-il pas un petit peu perdu? C'est quand même fou de se passer sur la feuille de match du capitaine face au box, donc la semaine dernière, et de le revoir aujourd'hui. On va parler d'abord à l'entraîneur des grandes gueules du sport, Pascal Dubras. Est-ce que Galthié joue avec le feu avec ses cadres?
Ben, à partir du moment où, comme l'a dit hier Aldrit dans son interview, à partir du moment où tout est bien étayé, où Galthié donne les bonnes explications, les bons justificatifs, ce qui semble être le cas dans la bouche de son capitaine, alors j'ai tendance à vous dire non. Mais cependant, moi j'établis un parallèle depuis donc à peu près 2 ans entre ce que fait le sélectionneur de l'équipe de France de rugby et le sélectionneur de l'équipe de France de football. J'ai l'impression, ce n'est qu'une impression, je suis un amateur de rugby mais pas un spécialiste, j'ai l'impression que Galthié est moins fidèle que peut l'être Deschamps dans ses choix. Et ce qui me surprend, ce que je ne verrais pas faire Deschamps, c'est de mettre sur la touche son capitaine. Or, par deux fois, Olivon et Aldrit, par deux fois, en l'espace d'une année, il les a enlevés, justifiant de leur méforme, justifiant de l'avènement d'autres joueurs, de sa volonté de voir émerger des joueurs, de jeunes joueurs, qui ont été compétitifs pendant la tournée d'été. Mais cela dit, c'est quand même spécial. Mmh. Et franchement, il faut, de mon point de vue, que Galthié soit hyper costaud, il doit l'être, soit hyper convaincant, ça doit être difficile de dire à un joueur, tu vas pas jouer
parce
contre
que tu
la
mets à
Sud.
Sa place en plus, Pascal, okay. T'as connu les gestions, voilà. Des égos, des personnalités importantes dans le vestiaire.
Bien souvent, en tout cas, mais bon, j'ai pas l'aura de Galthié, j'ai pas le savoir de Deschamps et le palmarès, mais en termes de management, ne fais pas aux autres ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. Mmh. Ok. Et là, je me dis que si ça devait être récurrent, ça pourrait être un problème. Cela dit, les choses qui règlent tout sont les résultats. Et Galthié, de ce point de vue-là, excepté l'Afrique du Sud par deux fois, Galthié, il a quand même beaucoup de résultats, et ça, on doit le reconnaître.
Mmh. Fred, t'es pas d'accord?
Non, je suis pas d'accord. Moi, je peux plus supporter Galthié. Moi,
ah oui, carrément.
Je serais joueur pour Galthié, je serais un de ses cadres, je deviendrais complètement fou. En fait, tu sais pas ce que ça peut donner. À un moment, t'as besoin d'un socle. Alors oui,
moi, mais je comprends. C'est le sélectionneur qui a mis le plus de socles de l'histoire du 15 de France en place.
Non, il a changé de cap.
Mais c'est pas vrai. C'est le seul qui a mis une charnière en place, qui a installé une charnière en place.
Il a changé sa façon de faire. Tu me dis pas que tu comprends mieux ce qu'il dit. Quand t'entends Aldrit qui dit, je suis plus aimé chez moi. Ben oui. Après, il revient.
C'est pas neutre, en tout cas.
C'est pas neutre. Ça veut dire qu'il y a eu une mécompréhension.
Un
moment, il a dit, je sens que je suis aimé à La Rochelle.
Exactement. Donc,
j'avais besoin d'un peu d'amour. Exactement.
Où il est bien, c'est quand il est dans son club. Et donc, moi, je suis désolé, ça me pose question. Parce que quand c'est difficile, quand c'est compliqué, quand les matchs sont durs, quand c'est âpre, et t'as besoin d'un socle, t'as besoin d'une équipe qui est soudée. Si, moi, l'émulation.
Parce que toi, tu te mets à la place d'Aldrit, en fait.
Moi, je me mets à la place d'Aldrit, tu dis, allez, va dans les tribunes, allez, reviens jouer.
T'as déjà vécu des trucs comme ça, Fred, dans l'équipe de France?
Jamais, mais jamais il s'est fait
mais
taper
chaque
le
coach. Chaque sport est différent.
Galthié se pose la question quand il l'enlève.
Mais
c'est
mais
posé,
bien sûr,
malgré tout.
Mais bien sûr, mais encore une fois,
il se met aussi à sa place. Est-ce qu'il le fait bien? C'est pas un tocard.
Est-ce qu'il le fait bien? Est-ce qu'il leur explique suffisamment?
Mais évidemment.
Moi, je suis désolé, le discours
d'Aldrit. Ils sont tous derrière lui.
Même si aujourd'hui il est édulcoré en disant non, mais c'est moi qui. Mais non, tu comprends très bien dans ce qu'il dit qu'il aime pas la façon dont il est traité. Tu comprends très bien que c'est pas normal à son goût la façon de faire. Encore une fois, l'émulation, c'est important. le socle, c'est encore plus important, surtout quand c'est difficile. Quand c'est facile, quand tout va bien, il n'y a pas besoin d'avoir un socle. C'est facile d'incorporer des joueurs. Quand c'est dur, t'as besoin des gars là qui sont durs, qui sont solides, et leur faire confiance de bout en bout, c'est important.
Mmh. Simon, t'es d'accord avec Fred sur ça, sur ses arguments, sur le fait que Galtier joue un peu avec le feu, justement, quand on parle du cas Aldrit là, il y en a d'autres, hein, des cas effectivement. On a parlé de Jalibert il y a quelques temps.
Ne confondons pas les cas et ne parlez pas de Jalibert comme de Aldrit.
Capitaine, moi.
Moi, je pense que.
Non, mais dans la gestion humaine, en tout cas.
Non, justement, il a un socle. Il a un cap, il a un socle par rapport à Ntamack et Jalibert. Vas-y, je te laisse, Simon.
Pour moi, de ce que je crois comprendre à ce sport auquel on ne comprend rien, on s'en rend compte à chaque match ou presque, chaque année, c'est que dans le rugby, il y a une dimension qui est essentielle. C'est au-delà de ce que tu apportes sur le terrain, c'est ce que tu apportes à ton groupe, à tes coéquipiers. Aldrit, c'est un mec qui, sous Fabien Galtier, grâce au management de Fabien Galtier, s'est révélé comme étant l'un des meilleurs joueurs du monde. Voilà, il y a Antoine Dupont, le phare, qui est un alien. Mais pour moi, depuis 10 ans, il est l'un des un petit peu moins l'un des meilleurs joueurs du monde. Donc non, je ne comprends pas la gestion de Galtier. Est-ce qu'il joue avec le feu? Pascal l'a rappelé, Aldrit a été exemplaire dans sa conférence de presse et ça face aux médias, et ça dit bien ce qu'est ce joueur, cet homme, un leader, un mec exemplaire. Et il a été remarquable. Justement, moi, j'achète pas. Voilà, c'est ça que j'achète pas. C'est que Grégory Aldrit, on peut, au nom de la sacro-sainte émulation, dire ok, il est moins bien. Mais quand un Aldrit est moins bien, est-ce qu'il est quand même pas mieux
que Guillard,
qu'un Guillard qui joue deuxième ligne en club, rappelons-le,
qui était titulaire à sa place face à l'Afrique du Sud.
Certes, on le sait dans le rugby, entre la cage et la troisième ligne, c'est pas Pierre qui va me contredire. Il y a des passerelles et en effet, tu peux t'appuyer, mais ce serait quand même bien la première fois, je parle sous le contrôle de Pierre, qu'un mec, parce que c'est l'argument de Galtier, comme Guillard gagne sa place lors de la tournée d'été où, on le rappelle, les finalistes du top 14 ne peuvent pas, ne sont pas éligibles. Bon, Aldrit avait dit qu'il préférait ne pas y aller. Il y a une petite musique qui nous dit quand même que ce serait une demi-sanction parce qu'il n'a pas voulu être le leader. Non, mais dans ce cas-là, il faut arrêter. Galtier, avant le début, avant le match, et Fabien Galtier nous a dit c'est la meilleure équipe du monde, c'est peut-être la meilleure équipe du monde de l'histoire des meilleures équipes du monde. Et tu vas me dire que Grégory Aldrit, ok, tu ne le mets pas titulaire, tu pars avec Guillard en 8, qui a fait une bonne première période avant de sortir. Mais tu mets réserviste, tu mets Aldrit réserviste.
En costume, et en tribune.
Et je cite Fabien Galtier, qui nous justifie l'absence d'Aldrit face à la meilleure équipe de l'histoire, donc, qui nous dit, c'est un joueur qui a besoin de se régénérer, de récupérer 3 petits points, et de jouer. Et de quoi ? Et de jouer. Mais donc, il n'a aucune chance de jouer parce qu'il est réserviste. Il n'a aucune chance d'apporter son leadership et son impact en rentrant en cours de rencontre. Ok, il est moins bien. Mais Grégory Aldrit, donc, tu le mets réserviste en costard face à la meilleure équipe de l'histoire, alors que c'est un mec qui a été ton totem, ton pilier derrière Antoine Dupont depuis des années. Je veux acheter un truc.
Juste rapidement sur Michael Guillard, la justification de la Nouvelle-Zélande, on peut plutôt l'entendre parce que sinon personne n'acceptera de faire ses tournées. Si les mecs n'ont aucune plus-value à y aller, il le dit, il faut.
Mais je suis d'accord avec ça, moi, Pierre. Je suis le premier à revendiquer ça.
En effet, de mettre Grégory Aldrit en tribune, c'est un choix qui a été fort. Il faut aussi considérer que le match de la semaine dernière, même s'il était important pour tous, ce n'était pas une finale de Coupe du Monde. Et que si ça avait été un match important comptablement, évidemment, Grégory Aldrit aurait sans doute joué. Il faut aussi voir que Fabien Galtier est dans une construction vers 2020. Évidemment qu'il y a des choix qui sont parfois difficilement à...
Si ça avait été un match important, parce que moi il m'a semblé que Galtier, c'était au nom de la forme du moment qu'il a fait ce choix.
Mais il veut voir la finale
de la Coupe du Monde.
Moi je pense qu'il a voulu voir certains joueurs face à ce qui se fait de mieux aujourd'hui.
Exactement.
Il faut faire attention à quelque chose avec Galtier, c'est ce qu'il dit publiquement à la presse et comment il enrobe ses messages. Et
ça, c'est valable pour tous les managers,
Exactement. Et ce qu'il dit après, avec son staff, à ses joueurs, voilà.
Il y a de la friture sur la ligne, Guillard, joueurs, hein, quand même. On peut constater qu'il y a certaines fritures sur la ligne, quand même, avec les joueurs. Donc, je suis d'accord avec toi.
Et je crois pas.
J'ai l'impression, moi.
Moi, je crois pas. Et moi, je vous fais un pari, c'est que s'il n'y a pas de blessure, Olivon, Ficou, Aldrit, ils seront dans le groupe pour la Coupe du Monde 2027. Parce que, contrairement à ce que vous pensez, Galtier, il est hyper fidèle avec ses cadres.
D'accord. Il est hyper fort.
Mais c'est pas ce qu'il est en train de vendre. Justement, justement que tu en as, sa nouvelle vente, c'est pas ça. Hein.
Comment
son nouveau produit, c'est pas ça. Avant, effectivement,
ouais, c'est, mais qu'est-ce qui te fait dire ça, Bennett? Qu'est-ce qui te fait dire qu'il est fidèle?
Parce que dans son premier mandat, depuis qu'il a pris le mandat.
Au début, il était comme ça, justement.
Il a juste changé. Il a mis une ossature en place.
Oui, mais c'est ce que disait Pierre. Depuis la Coupe du Monde, il y a quand même une tendance un peu différente.
Parce que je pense qu'au fond de lui, et il l'a dit à demi-mot,
sans, mis une méthode
sans
en
ouvrir
place.
Le parapluie. Je pense qu'aujourd'hui, même s'il bénéficie, et tout le monde, et le rugby français lui en veut de ça, il bénéficie de moyens exceptionnels par rapport à ses prédécesseurs, ça reste en dessous de ce que font les autres. Et donc peut-être que lui, au fond de lui, quand il joue les box et qu'il n'a que 15 jours de préparation, alors que les autres sont ensemble depuis le mois de juin, et qu'il n'a que 5 séances d'entraînement, peut-être qu'au fond de lui, il sait qu'il faudra un miracle pour gagner. Donc après, il se dit, ok, bah, je vais essayer de préparer et de voir certains joueurs qui ont bien joué en Nouvelle-Zélande.
Mais dans ce cas-là, tu nous le vends comme ça, comme
mais
un laboratoire.
Non,
tu nous le vends comme la revanche du quart de finale de la Coupe du
Monde. Il est obligé.
Ça fait, tiens, il y a beaucoup de réactions sur WhatsApp. Al qui nous dit, tout est dit, bravo Fred, ras-le-bol de Fabien Galthié, sa gestion des hommes est catastrophique.
Mais quelqu'un d'autre à la tête du 15 de France et vous allez voir le
catastrophe. Non, mais Vincent, et là-dessus aussi, il y a beaucoup de réactions sur le management, effectivement, humain, peut-être du sélectionneur. Et il y a Rigole qui nous dit, question pour Fred Weiss, tu te faisais voler tes tartines à la cour de récré par un rugbyman pour être dur à chaque fois avec le rugbyman.
Mais jamais, c'est moi qui voulais, ça se voit d'ailleurs, c'est moi qui voulais les
tartines. Les amis, on continue de parler de France-Fidji, le 15 de France ce soir. Est-ce que Galthié joue avec le feu avec ses cadres? Est-ce qu'il joue ou pas aussi un peu une partie de sa crédibilité sur la fin de cette tournée? On en parle dans quelques instants avec vous au 32-16.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Avec Pascal Duprat, Julien Beneteau, Fred Weiss et Simon Dutin, on se pose la question, est-ce que Fabien Galthié joue avec le feu avec ses cadres avant France-Fidji à 21h10 ce soir, le deuxième match de la tournée d'automne du 15 de France, battu la semaine dernière face au Springboks de 15 points, il faut réagir. Greg Aldrit n'était même pas sur la feuille de match, il est de retour comme capitaine, on se pose la question des statuts. Tiens, Greg Aldrit, vous en avez parlé de sa conférence de presse, on va l'écouter quand même, ce qu'il a dit hier après l'entraînement du capitaine, est-ce que ça l'a dérangé un petit peu ce management avec lui? On l'écoute.
Non, ça a été expliqué par le staff très clairement. Je l'ai compris. Le premier fautif dans l'histoire, c'est moi. J'ai pas forcément été le plus performant sur certains matchs début octobre. Seule personne à qui j'en voulais, c'était moi. Comme je dis, le staff me l'a expliqué clairement. Et quand c'est fait de cette façon, on peut que bien le prendre et que se remettre en question soi-même. Après un match de 80 minutes et bien fatigué, c'était une phrase pour dire que j'avais besoin d'amour et remercier surtout ce public de La Rochelle qui m'avait fait vivre un match exceptionnel en termes d'ambiance et de reconnaissance. Il n'y a pas d'arrière-pensée ou de quelconque mal-être ailleurs. C'était juste sur le moment pour exprimer ma gratitude envers ce public qui a été formidable.
Voilà, il n'y a pas d'arrière-pensée, nous dit Greg Aldrit.
The Oscars go to Greg Aldrit.
Simon,
quel crack, quel champion, quel leader. Excuse-moi, c'est sûr qu'il en a gros sur la patate. Il l'a sous-entendu quand il a parlé de l'amour qu'il avait à La Rochelle. Et donc, peut-être pas à Marcoussi. Pour revenir encore une fois, moi je suis d'accord avec Julien, de toute façon, Fabien Galthié, ce qu'il a accompli à la tête du 15 de France, c'est prodigieux. J'ai souvent défendu son bilan. On se demandait après la Coupe du Monde s'il fallait changer de sélectionneur. Je pense que ce serait complètement fou furieux d'imaginer remplacer Fabien Galthié. On est quand même obligé, quand on instruit un peu l'évolution de son logiciel, de remarquer qu'il y a quand même des changements, parce que Aldrit, il a fait partie justement de ces mecs-là qui bougeaient pas. Ils avaient les pieds dans le ciment à Marcoussi, hein. Dupont, Tamac, Aldrit, Marchand, c'est des mecs, même quand ils étaient moins bien en club pendant longtemps, ça ne bougeait pas. Et Fabien Galthié nous a expliqué d'ailleurs que l'ossature c'était important, que l'expérience c'était important, qu'on pouvait pas tout d'un coup virer des leaders parce qu'il y a un petit jeune qui brillait en top 14. Donc
un modèle d'échange jusqu'alors.
Ouais, notre confrère du Middle lundi dernier, il disait, bon, en gros, la sacro-sainte émulation a remplacé le devoir de mémoire. Et je pense, moi, que dans le rugby, c'est important que les mecs qui ont un vécu, qui sont déjà passés par des chemins tortueux, conservent la confiance, quelque part, du sélectionneur. Et Fabien Galthié, t'as l'impression que après la Coupe du Monde, il a voulu tout changer, que cette fameuse, la fin de la dépossession, ça s'est poursuivi avec le rond de serviette à Marcoussi, quoi, tu vois, c'est-à-dire que terminé, plus personne n'a de privilège, Dupont mis à part. Là, t'as quand même Ficou qui était capitaine contre l'Afrique du Sud, qui est pas dans le groupe.
Mais je pense que le
Pascal. Juste pour terminer, c'est quelqu'un qui l'a bien connu, qui est désormais consultant là chez les confrères de TNT, où c'est Benjamin Kaiser, qui disait, voilà, humainement, voilà Galtier, humainement, il peut se révéler un petit peu compliqué. Tu sens que
une musique qu'on entend depuis un petit moment déjà. Pascal,
oui, c'est. Ouais, mais on l'entend souvent. Il faut quand même faire attention parce qu'il y a peut-être aussi des pointes de jalousie. Galtier réussit, ok. Et quand tu réussis, plus tu réussis, plus tu en as qui
bénéficient des moyens que les autres n'ont pas eu aussi.
On doit en convenir, et je pense qu'il devrait davantage en convenir qu'il ne le fait.
Après, il réussit.
Il a plus de moyens que ses prédécesseurs. Il y a eu un couac, il faut s'en souvenir, c'est le quart de finale contre les Sudaf de la Coupe du Monde. Jusqu'alors, Galtier, comme l'équipe de France, tout le monde pensait que l'équipe de France allait être championne du monde. Mais là, merde, patatrac, bing, boum.
Et donc, on change tout.
Ça fait beaucoup.
À partir de ce moment-là, il y a des choses qui
changent pas tout non plus.
Il y a des choses qui se sont bousculées dans son esprit. Et les certitudes qu'il avait, et il avait raison de les avoir, eh bien, il les a moins depuis. Et je pense que c'est ce qui fait que la différence avec Deschamps, parce que Deschamps, il en prend plein la pipe, mais il bouge jamais. Il bouge jamais de rien. Et la différence, pardonnez-moi, la seule différence qui subsiste entre Galtier et Deschamps, elle est non négligeable. Deschamps, il est déjà champion du monde. Ok, avec son management qui est toujours fidèle à ses principes. Quoi qu'on fasse,
Pascal, il ne s'est jamais bousculé. Justement, moi j'ai une question par rapport à ça. Toi qui est manager et qui comprend un peu le truc, tu comprends ce virage à 180 degrés. En fait, t'es passé de la kinéthérapie, les anciens, il faut pas les bouger, quoi qu'il arrive, etc. Maintenant, mais la concurrence. Sauf que pour des joueurs. Pour une ère d'un sélectionneur comme ça, c'est quand même compliqué. Ce virage à 180.
Ouais. Moi, je trouve pas.
Moi, c'est sur le capitana.
Oui.
Le capitana. Pourtant, je pense que sur le capitana, c'est aussi important un capitaine au rugby qu'au football. C'est pas plus important au rugby qu'au football. Ok. Mais c'est la symbolique. Tu vires pas ton capitaine, ou alors si t'enlèves ton capitaine, ça veut dire que il a plus sa place dans l'équipe et que tu vas l'enlever. Il faut aussi considérer que ses coéquipiers ont besoin d'un guide. C'est le capitaine du rugby. Quand tu l'enlèves une fois sur deux,
c'est un groupe de leaders.
Comment on fait pour être lisible à partir de ce moment-là?
Si, c'est un groupe de leaders. Ils savent qu'en fonction de qui est sur la feuille de match ou qui est sur le terrain, c'est Ficou, c'est Aldrit, c'est Dupont, c'est Olivon. Je pense qu'il a. Pierre, tu dis si je me trompe, mais je pense qu'il a vraiment un groupe de leaders qui peuvent prendre.
Oui, c'est ça. Juste dire avant que le capitaine, c'est extrêmement important.
Un dernier truc, là, il va récupérer. Pas mal de blessés, Dupont, Movaca, Olivon et compagnie. Et vous allez voir le premier match du tournoi destination contre l'Irlande. Il y aura les tauliers qui seront là.
Il y aura
une vraie équipe.
Et dans ce cas-là, il fallait nous vendre le match contre Bennett, la meilleure équipe de l'histoire, contre un test, voilà, un exercice de laboratoire. Mais moi, j'achète pas ça parce que, ces test matchs, le grand public a la vision du match amical, mais c'était tout sauf ça parce que la musique avant la rencontre, c'était la revanche, la France humiliée chez elle en 2023,
un complexe contre l'Afrique du Sud,
quelque chose
avec cette deuxième défaite.
Tu fais pas des tests, tu fais pas rentrer des jeunes et tu testes pas ton 15 de France face à la meilleure équipe de l'histoire. Ou alors, en tout cas, le narratif, tu le changes avant la rencontre et tu dis en effet
c'est la meilleure équipe du moment
avant d'accueillir Hervé au 32-16. On va écouter Patrick Arletaz, sélectionneur adjoint, entraîneur en charge des attaquants de l'attaque de l'équipe de France, du 15 de France, parler justement du statut des cadres.
Ils le vivent jamais bien, ils veulent faire tous les matchs et ils veulent être avec nous. Ben non, c'est pas n'importe qui, mais il y en a aucun d'ici qui est n'importe qui. Alors lui, effectivement, il a été capitaine de l'équipe de France, il a été titulaire pendant 6 ans d'affilée quasiment. Mais bon, c'est intéressant aussi de voir comment réagissent ce genre de joueurs.
Ouais, ils ne vivent jamais bien quand même, dit Patrick Arletaz à propos, on comprend comment il a vécu.
Mais surtout que quand t'écoutes tout le monde, tu dis le capitaine c'est hyper important en rugby et finalement tu le changes, tu mets dans les tribunes.
Hervé au 32-16, supporter de 15 de France. Salut Hervé.
Bonjour messieurs.
Est-ce que Fabien Galtier il joue un peu avec le feu là en mettant un coup Aldrit pas sur la feuille de match là, nouveau capitaine, en tout cas avec ses cadres?
Alors moi je suis pas un pro Galtier, mais vous voyez, en vous écoutant ce matin, j'ai fait évoluer ma pensée.
Ah bon?
Je pense que deux choses. Un, je rejoins Julien Bento en disant qu'il y a eu une première phase Galtier jusqu'à la Coupe du Monde qui était plutôt bien bâti, avec une structure, avec un vrai plan, et on a perdu d'un point, malheureusement. Je pense qu'on a sous-estimé l'impact que ça a eu sur les joueurs et sur le coach. après. Parce que les médias, etc. On se rappelle d'Aldrit quand même, qui n'a pas fait le tournoi suivant parce qu'il était cramé mentalement. Vous vous rappelez, il avait été, à un moment donné, exempté l'équipe de France. Deuxième chose, on est dans un sport où la blessure est importante. La structure de l'équipe aujourd'hui, Movaca, demain, ce soir, pardon, Flamand est blessé, Meafou est blessé, Aldrit revient doucement, Ntamack a été blessé, Dupont est toujours blessé, Moïfana est blessé. Donc ça fait beaucoup. Et la structure complète, en fait, il a dû s'adapter. On a rectifié sur le tournoi, ce qui nous a permis de sortir sur une bonne note. On savait très bien cet été que ça serait un laboratoire, et Dieu sait que ça a été critiqué. Et j'ai l'impression, vous voyez, c'est ce matin que ça me vient à l'idée que ce soir, c'est le début du deuxième mandat de Fabien Galthié. Pourquoi ? Parce qu'on a enfin eu cette soi-disant revanche contre les Sudaf, et on va fermer le chapitre de la Coupe du Monde. Dernière, perdue. Et à partir de là, et je suis d'accord avec ce que disait Julien, au tournoi, on va récupérer Movaca, on va récupérer Dupont, on va rebâtir une structure claire. Alors certes, la structure, elle était basée autour du Stade Toulousain, des Rochelais et de quelques Bordelais. Et on va commencer à se préparer sur 2 ans. Parce que la Coupe du Monde, sur 4 ans, on a fait du laboratoire, on a essayé des joueurs. Certes, il y a des joueurs qui pointent, mais voilà. Et je ferai une parenthèse pour ce soir. Ce soir, Fabien Galthié, il sait que le match, il est à Bordeaux. Ça veut dire que les supporters, il va y avoir des Rochelais, il va y avoir des Palois, il va y avoir des Bordelais. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a mis des joueurs qui sont du coin.
Bon, est-ce qu'on y croit, ça, franchement, le côté politique
Bennett,
tu crois ça, Bennett?
Je sais pas si. Je pense pas qu'il ait pris en compte la localisation du match pour faire sa, son équipe.
Bah, j'espère, sinon c'est une tristesse abyssale.
Ça semble quand même compliqué.
Non, mais c'est l'auditeur t'a porté au nu et toi tu le fracasses.
Ah oui, Bennett, il écoutait Hervé qui disait je suis d'accord avec Bennett, et Bennett, il faisait non du doigt. Genre, il était pas d'accord avec lui-même, mon cœur.
C'est incroyable. Tu sais qu'on a concentré, c'est normal, le débat sur Greg Aldrit, mais on aurait pu parler également de la gestion de Lucu, qui est un général quand même. À l'UBB, l'UBB qui
perd jamais. Il a fait un match.
Ah oui, mais d'accord, mais à ce moment-là, tu ne le prends pas, c'est pareil.
Mais si, justement, c'est parce que c'est un général que tu le prends.
Tu le prends avant même qu'il ait rejoué en club, il est excellent avec son club, mais en revanche, tu te dis, ah non, face à la meilleure équipe de l'histoire, non, bah, je vais pas le mettre, le mec, c'est vraiment le taulier derrière Dupont.
Il revient de blessure, c'est
indiscutable. D'accord. Donc voilà, Baptiste Jauneau, donc ses performances avec Clermont, ça vaut mieux que. Alors que tu sais qu'il va même pas jouer. Non mais d'accord Pierre,
Lucu,
mais encore une fois,
c'est pour ça que d'accord. Je pense que sous n'importe quel sélectionneur, il serait même pas appelé pour la tournée alors qu'il a pas fait de match avec son club depuis le début de la saison parce qu'il est blessé. C'est justement parce qu'il a un passé en équipe de France que c'est un général qu'il est appelé, qu'il est dans le groupe, qu'il fait pas le premier match pour rester dans le groupe, pour donner la chance à Le Garac qui a joué en Nouvelle-Zélande, et le deuxième match de la tournée, il est titulaire.
D'accord, il a mis son Spotify dans le bus, il a fait quoi, c'est à quoi il a servi contre la Suisse alors?
Il a joué quand même.
Bon, moi, je me fais rire de Hervé qui dit quand même qu'il y a eu la revanche. Si la revanche, elle est comme ça, moi, j'aime pas tellement ce genre de revanche.
Merci Hervé d'avoir appelé au 32-16. Pierre, t'es venu à Bordeaux, match ce soir, donc à 21h10. Il joue gros, Fabien Galthié, là, après la défaite face au Springboks sur la fin de la tournée.
Il joue gros auprès des observateurs, des supporters peut-être. Il joue pas gros pour son poste de sélectionneur,
c'est
pas pour lui. Non, mais il est toujours, faut le rappeler, il est toujours le sélectionneur avec le meilleur ratio de victoires de l'histoire des Bleus. Il a défendu son bilan encore cette semaine, rappeler ses 2 victoires dans le tournoi, ses 4 deuxièmes places, disant qu'il était la meilleure équipe d'Europe depuis 6 ans. Mais depuis janvier, quand même, le bilan est moins bon malgré le titre dans le tournoi. 4 victoires, 5 défaites, moins de 50% de victoires. On n'avait plus l'habitude de ça. Et puis 4 défaites consécutives quand même. La dernière fois que c'était arrivé, c'était en 2018 sous Jacques Brunel, année où d'ailleurs ils avaient été battus par les Fidjiens dans le dernier match de la tournée.
Merci Pierre Thévenet à Bordeaux ce soir, prise antenne dès 20h. Salut, match Pierre. À 21h10, France-Fidji, il faut réagir après la défaite face aux Box la semaine dernière. Toute l'équipe RMC sur place autour de Christophe Cessieu avec Denis Charvet, Nicolas Paolorsi, Wilfried Templier. Évidemment, je vous rappelle que Tony Estanguet, l'ancien patron de Paris 2024, sera avec nous dans quelques instants face aux grandes gueules du sport. Mais d'abord, le zapping, on va parler MMA, on va parler basket, on va parler tennis, sport d'hiver et même de Rennes, pas la ville, l'animal. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Avec Fred Weiss, Julien Beneteau, Pascal Duprat, Simon Dutin. Dans quelques instants, on va être rejoint autour de la table par Tony Estanguet, l'ancien patron de Paris 2024, triple champion olympique. Il sera face aux grandes gueules du sport. Posez vos questions au 32-16 et sur notre numéro WhatsApp au 06-12-424-424. Envoyez vos messages. Mais tout de suite, vous me dites, on s'en fout pas.
RMC, le zapping des grandes gueules du sport.
Les GG, je m'en fous pas. En MMA, un Français va combattre dans la cage au Madison Square Garden de New York la nuit prochaine. Benoît Saint-Denis continue sa quête. Bennett.
À vous.
Simon.
Je m'en fous pas.
Fred.
Est-ce qu'on a Charles Chevalier?
Ah bah oui, c'est ouais, bah
ouais. Juste pour entendre ça.
Non, je m'en fous pas. UFC 322, prise d'antenne à 1h du matin sur RMC Sport 1, la télé ce soir, combat diffusé également au Grand Rex à Paris. Hein, d'ailleurs, je tiens à le préciser. Le Français est opposé à l'Iranien Beneil Dariush, catégorie poids léger. Ce sera vers 4h du matin. Vous avez reconnu sa voix, évidemment. Charles Chevalier est avec nous. Salut Charles.
Salut Georges, salut à tous. Merci Fred. Hein. Je me suis levé quand même.
Mais je sais, mais moi je rêve ouais. d'avoir ta voix. Donc
je écoute la tienne.
Ouais, mais moi, Charles qui est la voix. Une des voix notamment du RMC Fighter Club. Hein, vous écoutez en podcast pour avoir toutes les informations sur le MMA. Charles, Benoît Saint-Denis va combattre pour la troisième fois de l'année à l'UFC. Pourquoi c'est un combat important? Pourquoi il faut veiller ou se lever tôt pour ce combat?
Bah, alors déjà c'est au Madison Square Garden. Donc ça va te parler, Fred, parce que
ça
c'est
va parler,
évidemment
oui, pour le basket, pas pour.
Ouais, pour le basket, je. Non, mais forcément, parce que tu sais que l'UFC, partout où il se déplace, c'était le cas à Bercy, il bat les records de billetterie. C'est le cas aussi au Madison Square Garden. C'est l'UFC qui a battu le record de billetterie.
Ah ouais?
Ouais, pour un événement sportif, plus que le basket, plus que n'importe quel autre événement.
Aïe, 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 Fred.
Ouais. Ouais. Non, mais... plus que le basket?
Encore de billetterie, la recette qui a été générée à la billetterie. Donc déjà, c'est la première chose. En plus, c'est à New York. C'est un État qui a légalisé le MMA très tard, entre 1997 et 2016. C'était interdit. McGregor est arrivé. Et puis c'est là que ça a pété à ce moment-là lorsqu'il a combattu en 2016. Et puis pour ce combat-là, bah on a Benoît Saint-Denis qui est donc le 13e de sa catégorie actuelle. Il va affronter le 9e de cette même catégorie. C'est la catégorie la plus relevée à l'UFC actuellement. Donc s'il gagne Benoît Saint-Denis, il rentrera dans le top 10 de sa caté. Et vu qu'il n'y a que des tueurs, et bah il est assuré derrière de prendre un énorme combattant et donc de pouvoir prétendre encore aller plus haut. Il avait déjà affronté un énorme combattant, c'était Dustin Poirier. À l'époque, ça l'avait pas fait, il avait perdu. Depuis, il a changé d'entraîneur, il a changé de staff, il a aussi pris de l'expérience, il a pris en maturité.
Il a plus de chance, là? Objectivement, il a plus de chance de taper un top 9.
Ouais. Le top 9, il a des chances de le taper. En plus, ils ont un style qui devrait créer beaucoup de spectacles parce que Benoît Saint-Denis, sur ses 15 victoires professionnelles, il n'est jamais allé jusqu'à la décision. Donc, toujours KO, TKO ou soumission. Et puis, Beneil Dariush en face, et bah, lui, à chaque fois qu'il perd, les 6 fois de sa carrière où il a perdu, c'était aussi avant la limite. Donc, normalement, l'alliage de ces deux styles devraient apporter énormément de spectacles. Il y a aussi un enjeu de popularité pour Benoît Saint-Denis qui est assez important. Actuellement, c'est le 3e combattant de MMA français le plus suivi, derrière Doumbé et derrière Cyril Gane, évidemment. Il a 800 000 followers, par exemple, sur Instagram. Je pense que s'il gagne ce soir
aux États-Unis,
et que c'est un style que les Américains aiment bien en plus, hein, parce que c'est ce qu'on appelle un action fighter. Donc il y a toujours du spectacle, il y a toujours de l'action. Normalement, dès le premier round, ça part très très vite. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont réunies pour que Benoît Saint-Denis puisse être encore, il l'est déjà, mais un étendard du MMA français, du sport français même en cas de victoire. Et cette victoire primordiale donc pour intégrer le top 10 de la catégorie et donc pour pouvoir aller chercher encore plus haut après.
Donc combat hyper important pour lui, hein. Je vais tout le résumer, hyper important en termes médiatiques et aussi au fait, la capacité d'être dans le top 10. Et effectivement, t'as des combats qui sont encore plus intéressants après.
Ouais, effectivement. Bah alors, ce sera le premier combat de la carte principale qui est à partir de 4h du matin. Et on va le détailler peut-être juste à la fin. Et pour répondre à la question de Pascal, il y a un truc qui est aussi intéressant sur ce qui s'est passé. C'est que, alors vous avez pas des sports qui sont liés à des catégories de poids.
Ah oui.
Mais en l'occurrence, l'adversaire de Benoît Saint-Denis, il a fait 500 grammes de trop à la pesée. Et donc, du coup.
Donc, il va ramasser 20% de plus.
Exactement.
C'est ça.
Voilà,
mais c'est super bon business.
Ouais, c'est une très bonne. Donc, Pascal, pour répondre à ta question, on connaît pas encore la bourse exacte. Elles sont plutôt révélées après.
Mais il va gagner plus d'argent parce que son adversaire est plus gros.
Alors,
en fait.
On peut estimer à peu près, par rapport à ce que Beneil Dariush a touché lors de son dernier combat, qui devrait rétrocéder entre 50 et 60 000 dollars à Benoît Saint-Denis parce qu'il a fait 500 grammes de trop au moment de la pesée.
Ça fait cher le gramme.
On devrait faire ça au début de l'émission.
Si le poids est défini à l'avance, c'est bon. Hein.
Oui, c'est vrai.
Benoît Saint-Denis au Madison Square Garden assure évidemment cette nuit. On en reparle évidemment, Charles, demain. On va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Allez, on zappe. Je m'en fous pas. Préparer les JO d'hiver de Milan Cortina dans 83 jours au pays du Père Noël. Ça vous intéresse?
Ouais. Je m'en fous pas, c'est du ski alpin.
Ah voilà, Pascal, c'est du ski alpin, il s'en fout
pas.
Simon.
Je m'en fous pas.
Fred.
Moi, c'est la récompense qui m'intéresse.
Ah, on va en parler. Slalom à Lévi, en Finlande, c'est en Laponie, au pays du Père Noël, ce week-end. Avant les hommes demain, place aux dames ce matin. Première manche à 10h, deuxième manche à 13h. Léna Marjac est sur place. Salut Léna.
Salut Georges, salut tout le monde.
Alors on attend nos Françaises, Mikaela Shiffrin aussi, mais ce qui est important, Fred l'a dit, c'est qu'elles vont se battre pour gagner un Rennes, hein, c'est ça?
Ouais, c'est la tradition ici à Lévis, et seule Mikaela Shiffrin, l'américaine au sein d'une victoire en Coupe du Monde, peut se vanter d'avoir un troupeau de Rennes. 8 victoires à Lévis, donc 8 Rennes. Alors je précise quand même, ces animaux restent ici le reste de l'année dans une ferme, et d'ailleurs c'est une ferme que j'ai pu visiter hier, c'est à 10 km du centre de Lévis, au bord d'un lac gelé. C'est une ferme familiale, ça fait 40 ans que la famille de Johanna s'occupe de tous ces rennes, et il y en avait une petite dizaine dans l'enclos hier, et Johanna nous fait les présentations.
This one over here. Celui-ci, c'est Ingemar, et c'est Mikaela Shiffrin qui l'a nommé. Celui du milieu, c'est Sampa.
Ingemar.
C'est celui de Tania Putianen, la skieuse finlandaise. Le noir là-bas, c'est celui de Petra Vlova. Il s'appelle Louisa. Et tout devant, Rory, un autre de Mikaela Shiffrin. Chaque renne a sa propre personnalité. Quand on travaille avec eux presque tous les jours, on finit par savoir ce qui leur passe par la tête.
You know what they have on their mind.
Et donc j'ai vu aussi les deux petits rennes qui vont être décernés ce week-end aux vainqueurs des slaloms. Et là aussi, deux personnalités bien différentes. Alors ils ont que 6 mois, ils sont nés au mois de mai dernier. L'un est blanc et très à l'aise avec le contact humain. Le deuxième a des poils un petit peu plus foncés et il est assez peureux. Alors Johanna décidera au dernier moment lequel sera pour la gagnante et lequel sera pour le gagnant. Mais une petite indiscrétion au sein de l'équipe de France féminine. Oui. Il y a une grande question qui se pose, c'est comment on appelle son renne si on le gagne. Certaines ont des idées, notamment des prénoms de parents, mais moi je milite pour un prénom, c'est Georges. Je pense que c'est pas mal.
Georges le renne, j'ai un nom de renne.
J'ai une question, est-ce qu'il y a des gens qui, pour pas gagner le renne, font exprès d'être deuxième, et la deuxième finalement tu gagnes et tu dois quand même payer une rente pour le renne toute ta vie après, quoi. C'est ça?
Ouais, je sais pas. T'es marin et marraine du renne, et après bah voilà, ouais, l'idée c'est quand même de lui rendre un petit truc à ce renne là, donc faut venir le voir, lui dire bonjour.
Ah oui,
lui payer la nourriture, lui payer l'hébergement, c'est génial.
C'est ça. Ingemar le renne. C'est un bon nom de renne. Ingemar, je trouve, comme Ingemar.
Je l'appellerais Michel ou Bernard Henry.
Ouais, Bernard Henry, parce que c'est à Lévis, c'est ça?
Merci, Jean.
Excellent.
Excellent. Merci, ou Marc, hein, pour les grands fans de littérature aussi. merci, les amis. Merci, Léna. Évidemment, on suit ça avec toi à partir de 10h, première manche, pour savoir qui va gagner le renne. Je sais pas comment on l'appellerait, tiens. Si le renne est appelé Georges, franchement.
Julien, c'est bien. Julien, c'est bien.
Ouais.
Christophe,
c'est notre reine.
Un autre GG à Lévis.
C'est ça. Dans un instant, invité exceptionnel, Tony Estanguet est avec de l'ancien patron de Paris 2024, triple champion olympique face aux grandes gueules du sport. Posez vos questions au 32-16. On revient dans un instant sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.